Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Begin. Ah, c'est bon, ça fait du bien.
Salut, salut Charlie. Hey,
salut les amis.
Bah, t'as l'air en forme, ça fait plaisir, c'est quoi cette musique?
Mais ouais, tu plaisantes, là, je suis survoltée.
Oh, calme, là, tu veux pas un café plutôt?
Mais attendez, les gars, profitons-en parce qu'on va parler d'un film qui change le monde.
Ah oui, avec Malik Zidi, oui, il est génial le film.
Alors, les garçons, si on engageait une discussion.
Je propose qu'aujourd'hui, on essaie d'affirmer ce en quoi on croit.
Bah très bien, très bien. Moi je crois en les brèves, ça devrait être obligatoire. Une petite dose tous les jours, ça ferait du bien à tout le monde.
Ouais, moi je crois plutôt qu'on a besoin d'un retour d'expérience de terrain.
Non mais écoutez, on n'avance pas là.
Ce silence, il est invivable. Il faut qu'on essaie de réussir à reformuler, sinon on va crever de ça.
Calme-toi mais Charline, on discute là. C'est ça la démocratie.
Je l'emmerde moi la démocratie, d'accord? Alors, la démocratie c'est la télé.
Alors, écoute, Charline, peut-être que t'as...
Réalisé que le monde était absurde, que la vie était absurde. Que les gens étaient absurdes et n'avaient aucun but sur Terre.
Ah bah voilà, super. Alors on a déjà abandonné nos rêves?
Mais non, mais Charline, il faut être pragmatique.
Mais quoi? Mais c'est quand qu'on renverse la table, les gars?
C'est
là
quand le bonheur.
Très bien, merci. Là, je vois qu'on peut vraiment pas compter sur vous.
Mais c'est fini tout ça, faut te mettre à la page, là. C'est la Startup Nation,
mais
maintenant.
C'est vrai, réveille-toi, Charline. Le monde continue d'avancer.
Bah non, le monde, c'est nous qui le faisons. Et bim! Ami de la France Inter, lève-toi!
Camarade!
Bienvenue dans la start-up du service public qui augmente le capital de l'actualité en investissant dans la blague. Et voici les trois informations cottage business que nous allons upgrader. Où sont les jeunes? En tout cas, pas dans le grand débat, ni sur les ronds-points. On entend les revendications de tout le monde, sauf des 16-25 ans. Mais si étonnant!
Ils sont un peu mous du cul, ces jeunes d'aujourd'hui, non?
Quand on réussit à s'extraire de son milieu social d'origine pour percer dans un autre milieu, on a un petit peu le cul entre deux sièges, oui, deux chaises. Un essai s'intéresse aux trans-classes, mais il est plus rare de s'extraire de ses origines quand on est issu de bonne famille.
T'as honte de nous, c'est ça, hein?
Parce qu'on s'appelle Lepic. Quand on descend des Lepikovski, ma petite fille, on n'a pas à rougir.
La femme française est toujours élégante et décontractée. En plus, elle est mince, plus féminine et elle sent bon, plus que les autres. Ce cliché de la femme française terrorise le reste du monde. Alors une journaliste allemande a choisi de déconstruire ces stéréotypes et ça conditionne beaucoup la parisienne.
Bah, je sais pas, quand vous me voyez, vous vous dites c'est une icône. Et là, vous me proposez des trucs de ménagère.
Alors, ça tombe bien parce que lui, il déteste les clichés sur les femmes. Il n'en fait jamais, ça tombe bien. Alex Vizorek.
Eh bien, vous faites bien de me le rappeler. Et aujourd'hui, autour de la table, une toute belle équipe, que des grands écrivains et Guillaume Meurice. À 17h20. On m'a envoyé une brève. Une brève du Gers à Auch. Elle n'attend pas son compagnon pour l'apéro. Il appelle la police. Vous auriez pu nous dire que vous avez retrouvé quelqu'un, Juliette Arnaud. De quoi on va parler?
Je suis jamais allée à Auch.
Ah, bien joué.
Donc ça me sauve. Oui. De quoi on va parler? De ma nouvelle héroïne.
C'est pas vrai.
Je m'en ai trouvé une de vivante.
Très bien, peut-être dans le film. À 17h30, celui qui donne la parole à tout le monde pour nous prouver que c'est peut-être mieux que certains se taisent, c'est Guillaume Meurice.
Et moi le premier. Bonjour à tous. Je suis allé à une grande messe de l'innovation qui avait pour thème « Comment vivrons-nous en 2084 ?» Et j'ai rencontré plein de start-up.
On fait des concentrés de super aliments à boire.
Voilà, des jus de fruits en fait, hein, tout simplement, mais disruptifs.
Et enfin, à 17h40, celle qui a une volonté intérieure énorme, puisqu'elle parvient à se convaincre elle-même qu'elle n'est pas attirée par moi, c'est vous, Clara Dubon-Mono.
Bonsoir.
De quoi on parle? C'est vrai que vous le faites bien.
De vengeance ancestrale.
Très bien. C'est l'actu en plus.
Et voici celui qui va se charger du contre-champ de cette émission. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Malik Zidi.
Je crois qu'on est content.
Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Malik Zidi.
Merci, je suis ravi d'être là.
Nous aussi, on est ravis de vous accueillir, d'autant plus pour ce très beau film qui nous a emballés et qui s'intitule « Tout ce qu'il me reste de la révolution » de Judith Davis. Et c'est vrai que déjà, le titre nous a beaucoup parlé, mais de le voir nous a emballés. Il sera en salle mercredi prochain avec vous, Malik Zidi, bien sûr, avec Judith Davis elle-même aussi, Claire Dumas, Mireille Perrier ou Mélanie Bestel. Alex Vizorek, je vous laisse mener.
Ah ben, vous avez bien raison. Et alors, on l'a entendu dans la conf de rédac, il y a pas mal de sons quand on les a entendus, nous, en voyant le film, on s'est dit, mais c'est tellement fait pour notre émission, c'est tellement nos combats. Non, mais c'est vrai, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on passe nos journées à dire, presque toutes les thématiques se retrouvent. Est-ce que c'est ça qui vous a plu dans le film
et... Oui, que ça ressemble à l'émission.
Mais oui. Non,
oui, oui, c'est...
Est-ce que
la question égocentrée, vous nous aimiez avant le scénario.
Voilà, on a fait le film pour vous. En fait,
on va placer le contexte. Oui, donc, une jeune fille qui est interprétée par Judith Davis, si vous permettez.
Moi, j'étais un cran plus loin déjà, hein, mais vous avez raison, j'avais pas fait le pitch.
On va y aller mollo.
Comme ça, on va perdre personne. Bah, oui. L'auditeur est avec nous, il a pas vu le film.
Mais il a compris qu'on a aimé.
Et on va le faire en binôme. Oui. Donc, c'est une jeune fille qui est au début de sa carrière professionnelle, qui est fille de maoïste, utopiste, dont les parents ont passé leur vie à vouloir changer le monde, faire la révolution. Et elle entend poursuivre ce combat, ouais. Mais elle est très 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 investie là-dedans et il n'y a pas beaucoup de gens autour d'elle et dans cette nouvelle société où elle a du mal à trouver sa place qui peut continuer ce combat.
Tout à fait juste. Là, et donc elle veut garder ces combats là où
pas de compromis.
Là où autour d'elle ça tombe. C'est mais ça. Donc je reviens à cette histoire de fond du film. Est-ce que c'est ce fond du film là et peut-être vous pouvez nous raconter la genèse du film qui vous a plu et donné envie de le faire.
Alors la genèse c'est que c'est un collectif de théâtre déjà qui a commencé à jouer au théâtre de la Bastille qui s'appelle L'Avantage du doute hein, et c'est des gens qui travaillent ensemble, il y a pas de chef, pas de metteur en scène. Ils vont chercher des témoignages un peu partout et puis ils créent une pièce à partir de tous ces matériaux. Moi, je les ai découverts il y a 13 ans au Théâtre de la Bastille. Et à partir de là, ils ont créé un film qui s'appelle « Tout ce qu'il me reste de la Révolution ». Là, la metteur en scène, c'était Judith Davis. Elle a joué aussi dans le film. Et puis, donc, il y avait ce collectif. Et puis moi, je me suis intégré à ce collectif avec 2-3 acteurs. Ça, c'est la genèse du film.
Pour donc, il y avait déjà une forme de troupe.
Il y avait une troupe, il y avait un vrai collectif, mais un peu comme vous, là, autour de la table, avec des caractères différents.
Oui, vous
mais
avez copié.
Mais un engagement, on a un peu copié.
Mais bien sûr.
Un engagement différent. Mais il faut savoir aussi qu'au début du film, cette femme, cette jeune femme, pleine d'engouement et d'engagement, se fait virer par son patron de gauche, entre guillemets de gauche. Parce que il va la remplacer par une stagiaire qui va payer moins cher, enfin un truc un peu classique.
Et il lui donne des arguments de droite, c'est bien
des
pour toi.
Des arguments de droite, en buvant un petit café Nespresso, machin, bon voilà.
Et alors qu'il a été son prof, alors qu'il lui avait appris le contraire.
Voilà, une sorte de, je sais pas, de Romain Goupil ou de Cohn-Bendit, enfin un mec... Un mec qui a retourné beaucoup de vestes, quoi. Qui est un peu. Voilà.
C'est un bon exemple, Cohn-Bendit, parce que justement, ouais. Autour d'elle, les gens ont changé de combat. Ils se sont bourgeoisés et elle, c'est ça qu'elle refuse.
Alors voilà la détresse. Voilà, on parlait de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on avait quand même des totems comme ça, des gens de 68. Bah, le père de Judith dans le film, qui est joué par Simon Bakouche, qui est un excellent comédien. Ouais. Un maoïste qui a gardé ses opinions, mais avec le temps passant, il dit à sa fille constamment « garde la rage, nous à l'époque on était comme ça, à toi maintenant le flambeau, à toi de le faire », sauf que l'époque a changé et qu'on est tombé, nous les enfants de 68, on est tombé dans une sorte de déprime mondiale et Judith fait tout pour s'en sortir malgré tout. Et comment faire pour mêler la vie privée, la vie politique, etc. C'est un peu l'histoire du film, c'est que... Il faut que ça se passe bien entre les deux, quoi. Qu'il y ait un pont entre les deux.
Et elle est activiste. Elle dessine des doigts d'honneur voilà. sur les vitrines des banques, par exemple. Elle est devant Pôle emploi et elle fait une sorte de scénette pour essayer de sensibiliser les gens qui font la file devant Pôle emploi. Ouais. Et elle les amène finalement à débattre comme une sorte de mini grand débat. On va y revenir tout à l'heure.
Mais justement, ce que vous disiez par rapport à vous, par rapport à ce collectif, c'est un petit peu l'histoire du personnage aussi. Parce qu'il arrive un petit peu après, le truc s'est créé et quand même il a envie d'y rentrer et puis il y a une histoire qui se crée.
Bah, c'est une volonté de s'approprier la parole, d'être tous ensemble autour d'une table, des retraités, des chômeurs, des femmes, un peu de tout, et qu'on prenne la décision un peu démocratique de parler, de s'écouter, de ne pas se couper la parole, et d'aller...
Ça ne marche pas toujours bien.
Non, ça ne marche pas toujours bien, mais voilà, c'est ce qu'ils ont vécu, parce que j'y suis depuis longtemps, depuis 13 ans, et c'est très difficile de ne pas avoir de metteur en scène et de ne pas avoir de chef, quoi. Ouais. Effectivement, c'est un procédé compliqué, mais qui marche, quoi.
Il y a une organisation Nuit Debout qui fonctionne.
Ouais, Nuit Debout, justement, on est allé souvent avec Judith, avec la compagnie. C'est vraiment dommage que ça soit terminé par des bulldozers, parce que quand ils ont viré les tentes, moi j'étais à République avec des bulldozers un soir comme ça, c'était vraiment mais comme un naufrage. Mais il y avait tellement d'espoir. Il y avait tellement d'espoir. Ça va reprendre, là.
Mais on voit aussi, parce qu'elle essaye de convaincre, y compris sa sœur, qui s'est embourgeoisée,
qui a choisi le monde de l'entreprise.
Qui a même choisi de changer de prénom un peu.
Ouais.
Et elle n'arrive pas à la convaincre. C'est-à-dire que c'est compliqué de garder ses combats et de les transmettre à des gens qui ne veulent pas les entendre, à la limite.
Bah, c'est ça. C'est comment faire pour garder son héritage politique, familial, comme on dit, les liens du sang, enfin, même si j'aime pas ce terme, mais comment faire pour rester la petite fille ou le petit garçon de ses parents en sachant qu'il faut se débrouiller dans la vie, gagner de l'argent, nourrir ses enfants. Il y en a qui choisissent le monde de l'entreprise en sachant qu'ils sont foutus. Mais il faut ramener de l'argent à la maison. Donc.
Et ne pas trahir ses idéaux.
Ses idéaux, ouais.
C'est surtout une comédie, il faut le dire.
Ah ouais,
c'est une comédie, bien sûr.
Pas sérieusement, mais...
on rigole beaucoup dans le film, effectivement.
C'est vrai qu'on en parle sérieusement parce qu'il y a un reflet social et politique qui est très très juste et très bien vu. Mais c'est vraiment très 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 drôle.
Ah ouais, ouais.
Et il y a beaucoup d'autodérision sur le fait de vouloir débattre, de vouloir changer le monde, etc. Ouais. Qui nous a beaucoup beaucoup plu. Donc tout ce qu'il me reste de La Révolution de Judith Davis avec Malik Zidi, entre autres, on va y revenir tout à l'heure, bien sûr. En attendant, on a choisi Manu Chao, Clandestino.
Oh là là.
Putain, c'est reparti comme en 40 sur cette antenne, c'est un truc de dingue.
C'était en 40 La Révolution.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais expliquer la moitié de ma spécialité, de ma spécialisation. Je voulais que c'est mon nom d'Ismaël et le caravane de la Chine, c'est monsieur Mauritania. Oui, j'ai un embauché de Gaisir. Radiateur,
vous écoutez France Inter, si vous nous rejoignez, c'est Malik Zidi qui nous accompagne et qui joue dans un très beau film qui sort en salle mercredi prochain, qui s'appelle Tout ce qu'il me reste de la Révolution, de Judith Davis avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas, Mireille Perrier, Mélanie Bestel, Nadir Legrand, Simon Bakouche. Et il y a un léger hommage à Un monde sans pitié, le film d'Éric Rochant avec Hippolyte Girardot, où Hippo sera toujours Hippo, et avec bien sûr la présence de Mireille Perrier qui joue cette fameuse scène où ils sont sur le balcon dans Un monde sans pitié et la tour Eiffel s'allume et s'éteint.
Un claquement de doigts.
Exactement. Pour entourer Malik Zidi.
Eh bien, vous avez entendu le claquement de voix de Clara Dupont-Mono. Guillaume Meurice est allé sur le terrain et Juliette Ardon nous parlera du film.
Et l'information.
Bah, celle-là, elle est dans la boîte.
Allez. Ah.
Le vin, c'est un produit de bonheur aussi.
Le journal de presque 17h17.
Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Donc ça vous arrive, pas comprendre.
Et on commence par les titres.
La prévention de la maladie d'Alzheimer par un traitement antihypertenseur, semblerait efficace.
Oui, bonne nouvelle pour Emmanuel Macron qui va peut-être réussir à se souvenir qu'il avait promis à la fin 2017 que plus personne ne serait dans les rues.
Affaire Jérôme Rodrigue, oui. Maintenant, du nom de cette figure des gilets jaunes blessée à l'œil samedi dernier. Un policier a reconnu avoir tiré au lanceur de balles de défense, mais pas sur Jérôme Rodrigue.
C'est dommage, une telle maladresse quand même. Si ça se trouve, son métier c'est policier, mais son hobby c'est chasseur.
Et des brèves.
Oui, ça au moins elle vise juste les brèves.
Pas toujours.
Si.
Et
on commence par l'info judiciaire du jour.
Oui, l'affaire du financement libyen, le recours de Nicolas Sarkozy contre Mediapart a été définitivement rejeté en cassation.
Mais c'est Claude Guéant qui est très content de voir arriver son petit copain.
Passons aux élections européennes.
Et oui, Laurent Wauquiez a donc choisi ses têtes de liste, un trio emmené par François-Xavier Bellamy.
François-Xavier Bellamy qui est à titre personnel contre l'avortement.
Oui, mais manifestement, s'il se lance là-dedans, c'est qu'il n'a rien contre les projets mort-nés.
Et il a tenu à répondre aux critiques. Oui, en affirmant oui. « Je ne compte pas m'excuser d'être ce que je suis ».
Mais oui, pas du tout, c'est parce qu'on te demande. On te demande de t'excuser de ce que tu penses.
Côté Marine Le Pen, oui. Laurent Wauquiez, dit-elle, c'est vraiment la droite bourrin. Fin de
oui.
citation.
Bah, voilà, c'est de elle, alors que les Sarkozy, Fillon et Balkany, c'était la droite hippique. Enfin, la droite hippique dans la caisse.
Ah bah oui, bien sûr. Presse à présent, pour oui. participer au sauvetage du journal L'Humanité en cessation de paiement, le député LR Julien Dive a fait un don et s'est même abonné au journal.
Chapeau, wow. chapeau et espérons que le Figaro ne soit jamais en difficulté, sinon Jean-Luc Mélenchon devra s'abonner. Et ça va lui faire mal.
Business, ouais. Devant faire face à la baisse des ventes d'iPhone, le PDG d'Apple, Tim Cook, a estimé que le prix était un facteur à prendre en compte.
Mais non ! Bordel, le génie ! On lui donne le prix Nobel d'économie, immédiatement.
Santé, oui. toujours, mental. Ouais. L'organisme Santé publique France vient de publier les chiffres des régions les plus touchées par le cancer.
Et oui, c'est la Bretagne qui arrive en tête.
Oui, en cause principalement l'alcool et le tabac, mais aussi le soleil.
Et oui, pour les deux premiers, bon, on s'en doutait un petit peu, mais le soleil, on est tombé des nues, hein, ouais. comme si on découvrait que la région la plus touchée par le burn-out, c'était la Corse.
Santé, toujours.
J'ai marié à cette blague.
Selon l'enquête d'une ONG, les cigarettes exportées par l'industrie du tabac suisse vers le continent africain contiendraient deux fois plus de nicotine.
Ah, ça c'est chouette. Pour une fois, ce sont les Africains qui sont favorisés. Eh ben, chapeau.
People à présent. Oui. Julien Doré a racheté l'école maternelle de Marciargues. C'est entre Montpellier et Nîmes.
Eh oui, Jean-Luc Lahaye se renseigne déjà pour voir s'il y a un collège à vendre dans le coin.
Passons au sport avec le football. Oui. Renversant face à Bordeaux ouais, hier, oui. Strasbourg a rejoint Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue.
Voilà, ça vous connaissez pas bien pour vous dire. Strasbourg-Guingamp en finale de Coupe, c'est un peu comme un deuxième tour Jean Lassalle-Jacques Cheminade au présidentiel. C'est-à-dire qu'on est heureux pour eux, mais un peu inquiet pour l'avenir quand même.
D'accord. Et des brèves ?
Et des brèves, bien sûr. Une femme de ménage coincée 3 jours dans l'ascenseur d'un milliardaire à New York. Du coup, j'espère qu'il était nickel, l'ascenseur.
La dernière.
Ah, vous attendiez une blague de cul ? Et bim. Oui. Et là, c'est là que je suis fort.
C'était une blague de riche.
Sartre, agacé, il écrase 8000 œufs. C'est ce que les vegans appellent un génocide.
Merci, Alex Vizorek.
De rien, de tout.
Alors, nous sommes en compagnie de Malik Zidi. On va en profiter et on va aborder ce premier sujet qui a trait au film que vous venez nous présenter. Les jeunes sont les grands absents du grand débat. C'est le Premier ministre lui-même qui le déplorait hier soir sur notre antenne. La jeunesse est sans doute plus habituée à réagir sur les réseaux sociaux qu'aux longues réunions publiques dans les gymnases. Pourtant, quand ils s'organisent, ils peuvent être très très constructifs.
Qu'est-ce qu'il a, celui-là ?
Comment tu veux que j'en trouve, moi, les normales par semaine ?
Oh, dis, tu prends comme tout le monde, hein. Puisqu'on a dit qu'on était en République, on est tous égaux. Moi, je connais qu'un truc, égalité, fraternité.
Tu connais pas de truc du tout, parce qu'il y a la moitié, on a soit pris les autres qui en ont pas.
Alors, si c'est comme ça, il n'y a plus moyen de faire l'égalité, fraternité. Si on m'équipe et d'autres pas, c'est plus la République, c'est la royauté. Puis moi, les rois, je les guillotine.
Nous aussi, on les guillotine, les rois, mais l'égalité, c'est facile à dire, mais...
L'égalité, c'est quand personne paye les bons.
C'est pas vrai, c'est quand tout le monde paye pareil.
Et les pauvres, alors? C'est autre pauvre, le braque. C'est pas républicain, ça.
La guerre des boutons, bien sûr, le film d'Yves Robert en 1962. Alors donc, les jeunes sont les grands absents et les banlieues aussi. Et le Premier ministre semble s'en étonner. Ouais. c'est un peu marrant qu'ils soient les jeunes alors. Ouais,
ils sont où
ouais, alors ils sont pas dans les débats alors. Peut-être que Doudou, Édouard Philippe, nous écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour expliquer que les jeunes n'y sont pas? Comment est-ce qu'on pourrait le formuler?
Parce qu'il regarde des Marseillais.
les jeunes et les banlieues,
c'est... Non, mais les jeunes, ouais, ils sont dénigrés, évidemment. Ils sont pas invités. Je pense souvent à Balavoine face à Mitterrand, qui pousse sa gueulante, comme on dit, parce qu'ils sont pas assez considérés. Mm-hmm. Par contre, ils sont partout les jeunes. Il faut encore parler de Nuit Debout et puis les manifs. Ils sont partout les jeunes dans les associations, etc. Mais il y a quand même une peur parce que c'est la force vive de la nation. Parce que c'est le futur aussi, donc ça fait peur aux vieux. Je trouve que il faudrait encore une fois mettre à plat tout ça, réunir la banlieue et la cité. Et là, le malheur et le bonheur aussi avec ce qui se passe avec les gilets jaunes, c'est qu'il y a une fraternité qui est en train de se faire. Mmh. À travers les bavures policières aussi, c'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'il se passe des choses en banlieue où il y a des flashballs dans la figure, on n'en parle jamais. Là, ça se passe place de la République, on commence à en parler, parce que c'est des gens précaires aussi et c'est des gens qui sont de province. Mais on va dire qu'il y a quand même un ralliement de bavures, hein, c'est-à-dire entre la cité et la banlieue. Et on est à un moment précis de l'histoire où on subit tous la même chose physiquement et on est en train d'en parler. Les émissions, toutes les grandes émissions BFM, même BFM, hein, tous ces trucs-là, on commence à avoir des jeunes ou des gilets jaunes arrivés, des gens qu'on n'a jamais vus, mais même physiquement, ouais. Parce que tout est normé, tout est...
Et qui manifestent parfois pour la première fois ou qui s'impliquent dans le débat pour la première fois. Ouais.
Donc les jeunes sont vraiment là, ils sont partout, il suffit juste, je pense, de les inviter et leur faire confiance. Et pas de faire des QCM, comme on propose, en disant est-ce que vous êtes d'accord pour ça et pas d'accord pour ci.
Là, quelque part, ils sont invités s'ils ont envie.
Oui, c'est ouvert quand même.
C'est très ouvert, mais ils sont pas dupes les jeunes, ça fait longtemps qu'ils sont pas dupes, et même ils sont moins dupes que notre génération, ils sont pas dupes. Alors les réseaux sociaux, c'est peut-être très très pourri aussi, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent, ils vont très très vite, ils sont très rapides. Et ils ont peur de se faire avoir comme se sont fait avoir leurs parents.
Et puis les jeunes sont là aussi, par exemple, pour le climat, qui est un sujet qu'ils portent haut et fort, et notamment dans plusieurs pays, et la Belgique est un exemple, où tous les jeudis, cet après-midi, ils sont dans la rue et ils portent une problématique dont on a l'impression que le pouvoir est sourd à cette problématique. Donc,
Il y a une émission spéciale sur RTL ce soir, les trois ministres, parce qu'évidemment, comme il y a trois
sur
régions...
Sur RTL.
RTL non, mais RTL Belgique.
Ah, vous m'avez fait peur.
Sur RTL Belgique. Non, mais donc les trois ministres de l'environnement belge, parce qu'évidemment on est un pays où tout est coupé, vont rencontrer ces jeunes. Donc il y a, en tout cas, on va parler de ces problèmes parce que on les a vus.
Dis donc, Édouard Philippe, t'entends là ce qu'on vient de dire ou pas?
Doudou.
c'est aussi le thème de tout ce qu'il me reste de la Révolution, le film de Judith Davis dans lequel vous jouez, Malik Zidi. C'est que cette jeune fille qui est pleine encore d'idéaux, d'utopie, héritée notamment de ses parents, mais qui y croit. Elle essaye de fédérer les gens. Et elle organise, ils sont peut-être 5 ou 6 autour de la table, et ils débattent.
De tout, avec des sujets comme ça qui sont jetés sur la table, et ils débattent de tout, et chacun a le droit de dire ce qu'il pense, et sans se faire couper, sans se faire censurer. Et voilà, ça parle de ça aussi, le fait de pouvoir parler librement, sans se juger, et aussi de mélanger les générations. Mmh. C'est réconcilier les gens, les corps, les mots, le verbe.
Ceux qui ont un emploi, ceux qui ne l'ont pas, et ça crée du lien. Ouais. On va y revenir, Juliette Arnoux.
Oui. Alors justement, à propos de la jeunesse, la frontière entre l'enfance et l'âge adulte, c'est un peu comme la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ça n'a pas l'air, mais c'est pour eux. Je m'explique. Zazie dans le métro 1959, un livre. Zazie dans le métro 1960, un film. Raymond Queneau, Louis Malle, le tonton. En gros, un tonton fait visiter Paris à sa petite nièce de province, Zazie, et encense la beauté, par exemple, des Invalides et de son contenu, à savoir les restes de Napoléon. Sauf qu'elle, ce qu'elle veut, Zazie, c'est aller dans le métro. Alors elle rétorque, deux points, ouvrez les guillemets, « Napoléon, mon cul, il m'intéresse pas du tout, s'est enflé avec son chapeau à la con ». C'est un peu violent, certes, et je suis bien certaine que des gens, d'aucuns, y verraient la première étape à des gribouillages malvenus sur, je ne sais pas, au hasard, un monument national parisien, dédié au départ à célébrer les victoires du Premier Empire. Mais oh, calmez-vous de suite! C'est la plume de Queneau, plus la caméra d'Ouli Mal. Il y a un genre d'accréditation culturelle, on a le droit de le dire, Napoléon mon cul, même sans être une gosse. Et quand j'ai entendu Angèle beugler dans le film, je l'emmerde la démocratie c'est la télé. Eh ben j'ai bien ri. Et j'ai pensé, ah, voilà une poreuse. Angèle a beau avoir un métier sérieux, urbaniste, merde, c'est sérieux, et être plus vieille que Zazie, Angèle regarde la ville comme Zazie et s'en offusque. parfois, souvent. C'est qu'Angèle refuse le monde des adultes, c'est-à-dire le monde tel qu'il est. Alors Angèle, elle fronce les sourcils, elle dessine des majeurs rageurs qui ressemblent à des phallus enragés sur les murs de la ville. Angèle ne cesse pas de demander, et pourquoi ? Aux gens qui l'entourent et qui ont automatiquement envie de l'encastrer. Aux autres qui lui répondent, parce que c'est comme ça ! Ah, c'est pourquoi tellement énervant ! Arrêtez de dire parce que c'est comme ça, dites « je sais pas » par pitié ! Et Angèle les traite d'ogres. Angèle a une solution au mur de Trump, à tous les murs, à toutes les frontières. Oui, oui, le périph, c'est une frontière. Faisons des rues pour relier les gens, les zones, les checkpoints. Aux adultes qui lui disent, alors qu'elle est par trop naïve, elle répond que taire ses naïvetés et en faire un silence, eh ben c'est invivable. Bref, Angèle est une tête à claque, certes, et en même temps, elle nous venge de nos silences, dont on n'est pas si fiers, en tout cas moi. Zazie militait intuitivement, sans le savoir, Angèle est grande, elle milite tout à fait consciemment. Le seul problème, pour moi, avec les militants, c'est qu'ils ont tendance à dire, comme les mômes d'ailleurs, l'amour c'est naze. Enfin, les mômes, ils disent l'amour ça pue du cul. Ce qui revient à s'aligner sur la jurisprudence Louis-Ferdinand Céline, quand il énonce que l'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches. Je précise que ça fonctionne aussi avec les charolaises et les bergers australiens. Alors quand débarque dans la vie d'Angèle un chouette gars, vous donc, Malexidi, un gars suffisamment chouette pour te faire une déclaration, la déclaration même, j'insiste, la déclaration avec la majuscule et tout, bien plus courageusement que France Gall qui, elle, ne faisait que sa déclaration que quand elle est seule et qu'elle peut rêver. Petit robinet, France Gall. Donc lui, à voix haute, les yeux plantés dans les siens, il dit « Je veux tout revoir avec toi, tout refaire ». Qu'est-ce qu'elle fait, Angèle ? Elle s'éclipse. Et là, oui, d'accord, tu te dis « Bon Dieu de bon Dieu, mais quelle était ta baffe, cette fille ?» Sauf que c'est pour revoir sa mère. Et que sa mère est jouée par Mireille Perrier. Joie extrême. Mireille Perrier, dont il me semblait n'avoir plus vu le beau, doux, profond visage depuis un monde sans pitié. Et du coup, on n'a plus du tout envie de baffer Angèle. Et ensuite, ben ensuite, c'est au cinéma. Merci, bisous, merci.
Merci, Juliette Arnaud.
C'est il en a eu salle. Peur, il a dit, elle va tout raconter.
Mais non, j'ai que 3 minutes.
C'est en salle mercredi prochain, Tout ce qu'il me reste de la révolution de Judith Davis. Et c'est une comédie, c'est très 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 drôle.
Oui, mais comme Zazie dans le métro, elle est une comédie.
Ouais, oui. Et il lui dit pour... Il lui dit engage-toi.
Engage-toi, oui, je pensais à ça.
Engage-toi.
Oui. On était sur la petite ceinture là et je lui dis mais tu t'engages politiquement, mais engage-toi amoureusement aussi. Mais ce qui est un grand complexe chez les maoïstes, enfin à l'époque. Quoi. Comment séparer la politique et le cœur.
Voilà, on vous le recommande chaudement, on a adoré. Ça sort en salle mercredi prochain. Vous êtes sur France Inter et c'est Malik Zidi, donc notre invité. En attendant, on écoute Gaëtan Roussel, début.
C'est le début. Il y aura une fin, mais là c'est le début. C'est là que je t'ai vu. Ta silhouette au loin, c'est là que je l'ai vue. Et tout de suite, tu m'as plu, tu m'as plu. C'est là que j'ai fondu, sans penser au chagrin, ne pensant qu'au début. Sans penser à demain, au royaume suspendu, à t'aborder enfin, mais j'ai confondu. J'ai confondu, c'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début, c'est là que je t'ai vu. C'est là que je t'ai vu. Ses voeux. Moi je commande un train et aussi d'être heureux, seul ou même à deux. C'est ambitieux, trouver le chemin souvent c'est douloureux. Qu'on fait ses voeux. Raté, 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 je t'ai raté. Raté, 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 je t'ai raté. Raté, raté.
Mais engagez-vous, vous écoutez par Jupiter, engagez-vous. Engagez-vous en salle mercredi, dès mercredi prochain également.
Il y a des gens qui vont filer à l'armée avec votre nom.
Tout ce qu'il me reste de la révolution. Alors je vais périr. Oui. À l'antenne, mais ce sera, si c'est la dernière émission, je serais très contente d'avoir pu aider à les gens à encourager à aller voir ce
vous
film.
Vous voulez qu'on vous achève, c'est vachement beau, hein, ce que vous dites.
Ouais, faut finir là-dessus, Charline.
Je veux bien être martyr de la révolution de ce film. Allez. Malik Zidi à vos côtés, il y a Guillaume Meurice.
Oui, chronique un peu particulière aujourd'hui. Je vous propose un bond dans le temps jusqu'en 2084, dans 65 ans. Donc Clara aura le double de son âge actuel. Le président de la République s'appellera certainement Kevin. Et puis à la télé, vous pourrez certainement voir Michel Drucker. Bon, ça change pas. Mais que va-t-il se passer au niveau de la technologie? Alors pour en savoir plus, je me suis rendu au 104 où avait lieu la Maily Keynote, organisée par Mailiness, le magazine des startups françaises. Donc si vous êtes allergique aux smoothies framboise brocoli et aux conf cola zap, vous pouvez éteindre la radio. Hein. Ça va pas vous plaire du tout ce qui va suivre. Mais si vous êtes curieux de ce que l'avenir nous réserve, restez branchés. La journée avait donc pour thème la vie en 2084, avec tout d'abord de l'innovation au niveau de la téléphonie en entreprise.
Nous sommes ici pour présenter la téléphonie dynamique pour les entreprises.
Alors expliquez-moi ça.
Donc Ubephone est une solution qui permet aux collaborateurs d'une société d'avoir les mêmes fonctionnalités qu'une solution de téléphonie fixe, classique, être mobile constamment. Comme ça, on ne leur reprochera plus de ne pas être à leur bureau.
Mais alors, est-ce que ça n'existe pas déjà? Est-ce que ça ne s'appelle pas le téléphone portable?
Oui, le téléphone portable.
Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait, ça existe déjà. Mais là, c'est en réseau direct avec l'entreprise, hein, pour bien traquer les salariés. J'avoue que ça nous servirait un petit peu, nous, dans l'émission, puisque le jeudi, Alex n'est jamais au bureau, par exemple. Il passe sa journée avec son club de réflexion, hein, qui, je le rappelle, s'appelle Non au régime, sauf de Vichy, autrement nommé Salut les terriens. Et c'est vrai qu'on peut pas l'appeler. On sait pas où il est, on peut pas le joindre. Donc...
Je suis un peu Angèle, là-bas. Je fais la révolution en interne.
Oh, hein. On y croit. Vas-y, vous y croyez. C'est bien. Blasphème.
Il a blasphémé Angèle. D'accord.
Donc restons sur la téléphonie avec une belle invention, une autre belle invention, un bras articulé qui permet de taper sur un téléphone portable qui nous servira donc bientôt à taper nos SMS.
Ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit.
Ouais.
Pourquoi pas effectivement avoir un robot à domicile, par exemple pour assister une personne âgée qui ne sait pas trop comment utiliser son téléphone.
Alors il faudra déjà lui apprendre à se servir du bras articulé alors.
Le robot peut lui montrer comment faire, et ensuite elle écrit le SMS avec le texte qu'elle souhaite. Quoi.
Oui, alors il faudra peut-être un robot pour lui montrer comment fonctionne le robot. Ça, c'est pas simple. Remarque, faites gaffe, parce qu'en 2084, les personnes âgées, ce sera nous. Hein. On sera tous Bouteflika, je vous rappelle, en 84. Donc apprenez la notice dès maintenant. Voilà, c'est le petit conseil. D'ailleurs, on sera vieux, on prendra des médicaments. Eh bien, sachez que Sanofi a pensé à nous. Ils ont construit une imprimante 3D. Alors, quel est le but?
C'est de fournir des imprimantes 3D dans les pharmacies d'hôpitaux, puis dans les pharmacies de ville, pourquoi pas. Et d'avoir la possibilité pour le pharmacien d'imprimer le juste nombre, mais surtout la bonne dose pour chacun de ses patients.
Est-ce que ça va résoudre les scandales sanitaires qu'il y a chez Sanofi en ce moment?
Bah, c'est pas du tout le même sujet.
Est-ce qu'on peut fabriquer la dépakine avec ça?
C'est pas le sujet du... de la présentation.
Ah, c'est con, c'est con. Il va quand même falloir élaborer une imprimante.
Il a tout de suite repéré. Ouais,
il a douté, puis il a dit non. Il y a un piège. Il y a une petite alarme qui s'est allumée dans sa tête. Va falloir élaborer une imprimante 3D pour répondre aux questions. Hein, par contre, parce que si un jour Élise Lucet débarque, elle a le sens de la présentation. Alors, puisqu'on parle de scandale sanitaire, parlons nourriture et parlons compote. Il y aura des compotes 2.0 en 2084. On aura des pommes connectées. Faisons une hypothèse au niveau du transport par chemin de fer des pommes.
On aurait eu une secousse qui aurait endommagé quelques pommes à cause d'un objet qui était sur les rails, de pouvoir l'identifier en usine et pouvoir retirer ces éléments-là afin de toujours produire la meilleure compote possible.
On saura si le train qui transporte les pommes a eu des difficultés.
Exact.
C'est la révolution de la compote.
C'est ça.
C'est à se demander comment on faisait avant. Surtout, on saura comment ont été traitées les pommes dans le train, hein, dans les pommes qu'on mange dans la compote. C'est-à-dire qu'on va arriver quand même à un stade où les pommes des compotes de pommes seront mieux traitées qu'un voyageur du RER B. Elles vont avoir la clim, les pommes, hein, le pass Navigo à vie. C'est tout simplement prodigieux. Et c'est pas tout. On a mieux au niveau de la traçabilité d'une compote d'un individu lambda.
C'est que je peux modifier directement à travers ce portail qui peut être disponible sur le téléphone, sur l'ordinateur, mais aussi on peut le retrouver finalement dans sa voiture parce que on aura les voitures connectées dans l'avenir.
Je peux avoir une traçabilité de sa compote grâce à sa voiture ?
Exact, c'est ça.
C'est pas magique, sans déconner. C'est vrai que quand on est dans sa bagnole, on se demande toujours, mais où est-ce qu'elle est la compote que je vais manger demain ? Alors ça marche pour le Chablis aussi, hein, Juliette, je vois que vous me regardez bizarre.
C'est le Chardonnay ?
C'est le Chardonnay, ça marche avec tout. Et ben là, vous aurez juste à interroger votre Laguna Diesel et puis elle vous répondra directement. En 2084, on n'aura peut-être toujours pas de vaccin contre le sida, mais on saura retrouver notre compote en temps réel grâce à des satellites géostationnaires. Et là, vous vous dites, c'est beau, hein, vous êtes ému, je suis fier d'appartenir à l'espèce humaine, vous vous dites, mais moi je vous dis attention, et si c'était pas fini, et si on pouvait encore rêver plus haut ?
On peut complètement dire, la veille d'être livré sa compote, que notre enfant, il a changé complètement d'avis, il n'aime plus les bananes, ce qu'il veut c'est une compote aux pommes. Bah, je peux, à travers ce portail, communiquer avec ces personnes-là et finalement être livré en temps réel, assez rapidement, par drone, chez soi, une compote au goût qu'on cherche.
Par drone.
Oui.
Eh ben, on a hâte. On a tellement hâte d'être en 2084. De voir des balais aériens de drones comme ça qui transportent des compotes du côte du Rhône, de la purée, ce que vous voulez. On a hâte d'entendre des faits divers à base de collisions entre une brosse à dents et un chou-fleur. On a tellement hâte d'y être que j'ai qu'une chose à vous dire. Vivement le futur.
Même vous, vous aviez l'air étonné.
Du coup, j'ai pas de répartie. Ouais. Je fais par drone.
Merci Guillaume Meurice. Laissez-moi descendre. Laissez-moi descendre immédiatement.
Attendez, prenez une petite compote avant. Elle va arriver là dans 5 minutes.
17h42, vous écoutez France Inter avec Malik Zidi. On va aborder cet autre sujet avant d'écouter Clara Dupont-Mono. Les parcours de ceux qui parviennent à s'extraire de leur milieu social pour percer dans un autre milieu nous fascinent. Les deux mythes de l'extraction sociale sont, paraît-il, l'ascension ou la trahison. Eh bien, c'est bien plus complexe que cela, évidemment. Ça dépend aussi de parfois de simples rencontres, amicales, professionnelles ou amoureuses. C'est ce que montre un essai qui vient de paraître et qui, bizarrement, ne tient pas compte des gagnants du loto. Alors ça,
Dorénavant, nous allons vivre à Monaco. Mais attention, nous ne sommes pas encore de vrais Monte Carlo.
On est gasque.
C'est pas parce qu'on a un gros PEL qu'on va se faire accepter comme ça du jour au lendemain. Il va falloir s'intégrer dans notre nouvelle patrie et montrer que nous sommes dignes d'appartenir à la principauté. Nous allons vivre ce petit bout de rocher, pas plus gros qu'un rocher, tout son nom.
Ça fait rire la baronne, c'est les tuches. Alors, c'est une longue interview dans Télérama de Chantal Jacquet qui a dirigé un ouvrage collectif intitulé « La fabrique des transclasses ». Malik Zidi, j'ai lu que votre papa était issu d'un milieu ouvrier en Algérie. Votre maman vient d'une famille de paysans près de Concarneau. Votre maman devient pharmacienne, votre papa informaticien. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle, d'après les sociologues, des transclasses. Est-ce que vous avez senti chez eux ce tiraillement, ce côté un peu cul entre deux chaises ?
Oui, bien sûr. Bah déjà, c'est une famille mixte, donc il y avait déjà quelque chose de...
Entre la Bretagne et l'Algérie.
Entre la France et l'Algérie, déjà, ça fait comme un truc tectonique. Là. Et puis, ils se sont rencontrés dans le métro, en parlant de croisement, ils se sont rencontrés dans le métro, tous les deux. Et puis, ils sont montés grâce à l'école, grâce à l'ascension sociale classique, on va dire.
Ouais.
Mais c'était dans les années 60, 70, quoi. Mm-hmm. Est-ce que maintenant, ça marcherait toujours ? J'espère. Sauf que, vu que, par exemple, les frais de dossier pour les étrangers sont en train de se faire augmenter, etc., etc.
Et les droits d'inscription des étrangers non européens.
Je sais pas comment ça se passerait actuellement. Je pense qu'effectivement, l'amour, ça peut aider. Être à deux, c'est plus fort. Mais voilà.
Ce sont des parcours complexes et souvent des agiographies quand on parle de quelqu'un qui est issu d'un milieu social non favorisé et puis qui réussit. Il y a toujours un côté agiographique. Et cet essai s'empare de cas de chair et d'os pour essayer de les définir. Clara, avant de vous laisser la parole.
Oui, juste ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne parle pas du tout de... Quand on parle de transcas, c'est ceux qui montent les cas, c'est ceux qui descendent. Et d'ailleurs, le journal demande pourquoi est-ce qu'elle ne cite pas du tout d'exemple de ceux qui ont dégringolé, parce que c'est aussi une forme de transclasse.
Parce que personne n'a choisi ça, généralement.
Oui, mais ça dépend. Dans les années, dans les années 70, c'était les bourgeois qui, à un moment, se mettaient quand même dans les milieux ouvriers. Justement, il y a eu quand même...
Tout ça.
Exactement. Et n'empêche que même subi, ça reste justement une forme de honte qui est complètement différente courante de l'ascension sociale, où il y a toujours une forme de fierté et de valorisation, ce qui est normal. Mais il y a aussi tous les déclassés, et c'est bien transclasse aussi, qui dégringolent. Je trouve que le vrai sujet dont on n'entend jamais parler, c'est aussi cela.
Mais quand vous serez viré de chez Marianne, vous témoignerez.
Voilà, exactement.
Malik Zeddi, est-ce que vous êtes un peu le produit, le fruit des aspirations de vos parents aussi? Eux ont réussi grâce à l'école. Vous, l'école, ça a été un peu plus difficile.
Ouais, c'est très compliqué. Ouais,
mais malgré ça, voilà, vous
malgré
êtes...
ça, je suis devenu artiste, quoi. C'est pour ça.
Avec
grâce
une magnifique
à ça...
carrière au cinéma.
Ouais, enfin, c'est mon parcours individuel, mais j'ai justement essayé de casser tout ça parce que c'est une pression aussi. C'est une pression gigantesque, la scolarité. Et puis de partir d'un milieu modeste, enfin, de mes parents, c'est, enfin, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, mais c'est aussi une immense pression et puis un immense héritage. Ça aussi, c'est un héritage. Mm-hmm. C'est-à-dire une ascension sociale, c'est un héritage. Et de se dire, est-ce que je ne vais pas faire comme mes parents? Est-ce que je devrais faire comme mes parents? Et sans avoir sa liberté, c'est compliqué aussi. Donc c'est pour ça que grâce à l'artistique, grâce à l'art, on arrive à s'en sortir avec joie, avec abnégation, avec plein de choses horribles comme ça, mais en tout cas en se posant des questions sur soi-même, en se libérant, quoi, mm-hmm. en gros.
On parle parfois de trahison, de trahir son milieu, etc. Ouais. Par exemple, si on prend les deux personnages de Tout ce qu'il me reste de la Révolution, le film de Judith Davis, sa sœur, elle choisit le monde de l'entreprise, un mari qui gagne très bien de sa vie, elle a une très très belle voiture.
Ça, c'est la sécurité, quoi. Ouais, la sécurité de l'emploi.
Elle a l'air heureuse.
Il n'y a pas de morale. Elle a l'air heureuse. Enfin, il y a un craquement à un moment donné. Vous verrez.
Pas parce qu'elle se dispute avec ça. Je l'ai vu, moi.
Non, pardon. Ouais.
Parce qu'elle se dispute avec sa sœur parce qu'elles n'ont pas choisi.
Elle sait qu'on ment tous. Enfin, c'est-à-dire que surtout dans les. Je parle pas dans toutes les entreprises. Évidemment que le travail, comme on dit, c'est la santé, etc. C'est la dignité. Mais quand le travail est bien payé, quand on a une reconnaissance du patron, quand on a une reconnaissance sociale, ça c'est parfait, c'est le travail, ok. Mais il y a des travaux qui sont terribles. Et il y a des travaux où on fait semblant d'être un travailleur parce qu'on est exploité, on est harcelé et on a besoin de bouffer. Donc la sœur de Judith Davis, qui est jouée magnifiquement par Mélanie Bestel, elle a choisi ce côté-là, on va dire, entre guillemets, de confort, alors qu'elle est dans sa tête complètement perturbée. Mmh. Elle a un héritage de maoïste de 68, elle a un héritage vraiment engagé. Et elle a choisi le management, le truc.
Et aujourd'hui, elle met des chaussons quand elle rentre chez
voilà,
elle.
Montrez pas de blanche.
Tous les invités
voilà,
à mettre des chaussons.
Et pas de chaussures en rentrant.
Ça, je comprends. Bah, c'est des problèmes principes d'hygiène, ça. C'est vrai.
Je vous renvoie à l'interview donc, dans Télérama de Chantal Jacquet. Et peut-être aurez-vous le goût d'aller découvrir son ouvrage, La fabrique des transclasses. Clara Dupont-Monod.
En parlant de classe.
Mettez vos chaussons.
En parlant de classe. Oui, parce que l'actualité, Charline, c'est aussi ce fait divers survenu dans la nuit de dimanche à lundi, qui ne vous a certainement pas échappé. En Corse, sur une départementale de Vescovato, à l'est de l'île, un camion a violemment percuté un troupeau de brebis. Bilan.
Vous avez un peu échappé, si c'est vrai.
Bah oui, mais n'empêche, ça s'est vraiment produit. Ouais. Bilan, 31 victimes, essentiellement des brebis, donc, comme l'a rapporté France 3 Région, que l'on remercie. Eh bien, figurez-vous que...
Essentiellement des brebis ou que des brebis? Parce que c'est pas pareil.
Que des brebis.
D'accord.
Je ne voudrais pas, moi, être à la place du conducteur du camion, et vous non plus, Malik, vous me le confiez tout
pas,
à l'heure.
Surtout pas.
Voilà. Car la Corse n'est jamais hostile aux représailles, et il se pourrait bien qu'un berger décide de venger la mort de ses brebis. Non. Un berger qui aurait lu ce petit roman signé Balzac et qui s'appelle La Vendetta. Balzac...
C'est de pire en pire, Balzac, les liens avec la Clara. Les gens s'en rendent compte,
je
hein.
peux
les
terminer.
Gens écoutent.
Hein. Balzac l'a publié en 1830 et ensuite il l'a fondu dans un ensemble car il partait du principe qu'un texte, c'est un peu comme Alex Vizorek, ça n'aime pas rester seul. Et donc il a toujours réuni ses textes dans un groupe, notamment dans La Comédie Humaine. Et il se trouve que Balzac a fait, avec ce petit texte, un peu l'inverse de ce que fait Guillaume Meurice avec ses chroniques, c'est-à-dire qu'il l'a beaucoup travaillé. Il a passé 12 ans sur La Vendetta. Et le résultat est splendide. Alors, il est aussi même splendide que l'héroïne corse de ce livre, qui s'appelle Ginevra, et qui, en effet, souffre un peu du même mal dont nous souffrons en silence, Juliette, Charline et moi. Elle est d'une intimidante beauté. Je cite, « Sa démarche possédait un caractère de noblesse et de grâce qui commandait le respect. Ses longs cheveux, ses yeux et ses cils noirs exprimaient la passion. » Guy Lagache parle de nous en ces termes, hein, dans les couloirs. Voilà. Alors, seule différence de Ginevra avec nous, elle est pure. Ah. Je cite encore, elle s'était refusée au mariage par amour pour son père et pour sa mère. Vous voyez le beau cas de psychanalyste. Ouais. En tout cas, Ginevra aime aussi la peinture, elle prend des leçons dans un atelier, elle est très assidue, et un jour, elle s'aperçoit qu'un homme est caché dans un recoin de l'atelier. Autour, Paris gronde, nous sommes en 1815, les partisans de Napoléon sont pourchassés par les royalistes, et il se trouve que Ginevra idolâtre Napoléon, et que le jeune homme caché était un soldat au service de Napoléon. Cela tombe très bien. Ginevra Ginevra extirpe Louis, c'est son nom, elle le rafistole, elle tombe folle amoureuse de lui, c'est réciproque, et elle le présente à ses parents. À l'instant où les parents de Ginevra posent les yeux sur Louis, ils deviennent blêmes, ils sont muets de stupeur, ils le reconnaissent. Car ce jeune homme appartient à une famille corse qui avait massacré la famille de Ginevra, qui en retour s'était vengée, mais il restait un survivant, à l'époque petit enfant, et c'est Louis devenu grand. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, dans les romans? Eh ben, on s'en fout. On y va quand même. On pense que l'amour écrasera les lois stupides des hommes. C'est ce qu'ont fait Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Bernard et Bianca à leur façon. Et c'est ce que font Ginevra et Louis.
C'est vrai.
Ils partent, ils n'ont pas un sou, et hélas, ils oublient, car on le dit assez peu, que l'amour tolère très mal la pauvreté. L'amour se dégrade au contact de la faim, du froid, de la paillasse dans une mansarde humide. L'amour, il lui faut du confort. L'amour préfère Rochebobois à la Révolution. L'amour n'est pas de gauche. Regardez Tristan et Iseult, c'est la vérité. Il quitte le château. C'est pas moi qui le dis, la littérature. Il quitte le château. Tristan et Iseult quittent le château pour vivre comme des gueux. Le résultat, c'est qu'ils regrettent le sel et les fourrures. Et le résultat, c'est que leur passion se plombe. Pour Ginevra et Louis, ce sera bien pire. En fait, la vendetta tragique s'abat sur eux, les innocents. Et il se trouve qu'à la même époque que Balzac, un autre écrivain qui s'appelle Prosper Mérimée, que j'aime beaucoup, que Juliette aussi aime beaucoup, publia un récit nommé Matteo Falcone. Et là aussi, c'était une histoire de famille corse qui, au nom de règles ancestrales, dégénère complètement. Donc moralité, nous dit la littérature, si on aime le calme, il vaut mieux être belge ou cévenol, mais pas corse. Ceci dit, ça inspirera peut-être un peu moins les grandes plumes. Je vous redonne les références. La Vendetta d'Honoré de Balzac est parue en folio. Ça coûte 2 euros, c'est en poche. Voilà, c'est une petite somme pour grand effet.
Oh.
Je voudrais quand même dire que malgré leurs conditions, Bernard et Bianca étaient heureux. Hein.
Oui, mais vous n'avez pas vu le 2.
Ah, c'est peut-être de gauche.
Clara Dupont-Mono, merci beaucoup.
Pensez pour les brebis, quand même.
Abordons ce dernier sujet avec Malik Zidi. La femme française est, paraît-il, célèbre dans le monde pour sa silhouette et son élégance. La femme française jouit de ce cliché, alors que la femme allemande ou la femme afghane n'ont pas la chance d'être embellies par ce poncif, qu'un journal allemand bat en brèche, relayé par le Courrier International. Découvrons ensemble qui est la femme française.
Ah, les enfants. Qui m'a supplié d'en avoir? Parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau. Mais tu t'en occupes jamais. Enfin, si, si, si. Le dimanche soir, parfois, ça te prend, là. Tu joues un quart d'heure avec eux. Tu les énerves bien en faisant le fou, là. Juste avant qu'ils aillent se coucher. Et après, tu me les laisses sur les bras, surexcités, trempés de sueur, avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis, les cauchemars. Et toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon, quand même, faut pas déconner. Les chiards, ça va 5 minutes. Parce qu'en vérité, Pierre, tu as un peu honte de moi aussi. Cette épouse molle fagotée, qui a quand même un gros cul de 25 kilos, en plus, depuis la naissance du petit.
Valérie Benguigui dans Le Prénom d'Alexandre Lapatelière et Mathieu Delaporte. C'est le Süddeutsche Zeitung via le Courrier International qui nous parle. Alors c'est pas japonais, hein, c'est allemand. On se demandait ce cliché de la femme française véhiculé beaucoup par les Parisiennes notamment. Est-ce qu'il est véhiculé beaucoup peut-être par le cinéma, trouvez-vous?
Ouais, par le cinéma, par la mode, par les affiches dans la rue, par tout ce qu'on nous donne et puis par toutes ces merdes qu'il y a à la télé aussi. dont on parlait
les Marseillais.
Les Marseillais, avec tous ces trucs. J'ose même pas dire le nom tellement j'ai pas envie de faire de pub là-dessus. Mais voilà,
tous ces... Angèle, ce serait une anti-femme française.
Mais non, mais Angèle, c'est la vraie femme française. C'est une des femmes parmi toutes les Françaises. Et c'est surtout... Bon, je vais pas dire que c'est la République, mais tout de même, c'est une femme qui se bat avec ses idéaux, avec son corps, avec qui elle est. D'ailleurs, elle est mal fringuée au départ. C'est pas une figure de mode. Et puis, après, il y a un truc romanesque, c'est que comme elle tombe un petit peu amoureuse et qu'elle avance, elle commence un petit peu à faire attention à elle. Mais ça veut dire quoi, faire attention à elle? C'est surtout faire attention à lier son cœur et ses engagements politiques. Et d'un seul coup, c'est un peu... c'est très romantique tout ça, mais c'est un peu... Elle resplendit de sa brillance... On va dire de l'alliance entre son engagement politique et son engagement amoureux. La femme française, c'est marrant, je lisais un truc, pour faire un peu littéraire, de Gertrude Stein, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Paris, France. où elle parlait de la femme française en 1940. Et elle disait, les femmes françaises, elles ont toutes les bras très minces et puis des grosses cuisses. Enfin voilà, c'est des clichés de l'époque, par exemple. Oui. Et puis ça a bougé, tout ça bouge. Oui. Mais bon, voilà, tout à l'heure, dans la rue, comme tout le monde, j'ai vu une femme à poil avec vendre un slip sur une affiche d'abribus.
Oui, il y en a en ce moment.
Est-ce que c'est une femme française, ça? Est-ce que, voilà, etc.
Hiver 2019, elles sont toujours à poil.
C'est un mannequin russe.
C'est un mannequin russe.
L'article cite aussi Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Simone Veil. Et c'est vrai que la femme française, c'est aussi cette femme engagée.
Et
Angèle est notre nouvelle héroïne.
On sent une petite pointe d'envie de la part de la personne qui écrit cet article.
Alors je rappelle tout de même que l'actrice préférée des Français est allemande et qu'elle s'appelle Romy Schneider et elle vous embrasse.
Malik Zidi, on va revenir à votre cœur de métier.
Il connaît l'émission, il sait qu'il va jouer un sketch.
C'est ça.
Voilà. Et il s'était pas préparé à être Raphaël Glucksmann qui se donne 2 mois pour unir la gauche, mais d'abord sans les insoumis. Alors, première réunion, Charline et Nathalie Arthaud, je suis Olivier Faure et Guillaume, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même invité. Est-ce que la gauche va s'unir?
La République, c'est moi!
Votre attention, s'il vous plaît.
C'est la lutte finale.
Mes amis, j'en appelle à votre sens du rassemblement.
Alors, voilà le souci. Au PS, on n'est plus que 2 et on arrive encore à se disputer.
C'est la dispute finale.
Silence! Je me donne 2 mois pour vous unir, pour nous unir, camarades.
Mais vous êtes qui d'abord, vous?
Je suis le casque bleu de la gauche.
Et pourquoi pas le chef de l'ONU pendant que vous y êtes, là?
Monsieur Mélenchon, je ne crois pas vous avoir convié aux discussions.
C'est donc ça, votre union? Sachez que ma personne est sacrée.
C'est la brute finale.
Bon, madame Arthaud, si vous pouviez cesser de beugler, merci.
Alors, beugler, c'est la spécialité de tout ouvrir.
Mais c'est sûr que si on attend le PS pour se faire entendre, ben...
Voilà, ça c'est bien. Enfin, un début de discussion.
Mais il est pas là, Benoît Hamon?
Bah non, pourquoi?
Bah on fait comment, sans notre leader charismatique, là?
Alors... en matière de charisme, je me démerde pas mal.
Écoutez les copains, il nous faut dégager un socle commun.
Mais on en a un.
Lequel?
Bah la défaite.
Alors, je parlerai plutôt de débat.
Ouais, parlez pour vous, je vous rappelle que moi, à 600 000 voix près...
Et c'est tout ce que vous partagez, là? La branlée?
Alors, le partage, étonnamment, pour des gens de gauche, c'est pas notre truc.
Et les verts, ils sont où, là?
Ah bah, sans doute en train de copiner avec le grand capital.
Ouais, on a vu ce que ça a donné, Hulot avec Macron.
De toute façon, la gauche, chez moi.
Vous êtes complètement marteau.
Ah non, monsieur, le marteau, c'est chez moi, c'est plutôt.
Alors, les communistes, justement.
Il y en a plus, je les ai bouffés.
Je me demande si 2 mois, c'est finalement pas trop court pour vous unir.
Alors, m'unir avec Mélenchon, jamais.
Eh ben moi, avec les socialistes, jamais.
Et moi, avec Hamon, toujours pas.
Bon, bah, je pense que je vais rebaptiser mon mouvement Poisse Publique.
Malik Zidi, merci. Si ce sketch vous désespère, si l'union de la gauche vous désespère, eh bien, ça vous fera beaucoup de bien de voir tout ce qu'il me reste de la Révolution de Judith Davis. Mais si, je vous promets, ça fait beaucoup de bien.
Et une grande actrice, Judith Davis, et une grande réalisatrice.
Et aussi toute une troupe, puisque ce projet a démarré au théâtre, ils sont tous merveilleux. Avec vous, Malik Zidi, avec Claire Dumas, avec Mireille Perrier, qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver, Mélanie Bestel, Nadir Legrand ou Simon Bacouche. Et signalons aussi que ce prix a remporté ce film a remporté le prix du jury au Festival du film francophone d'Angoulême, comme ils ont bon goût. Allez, on laisse le mot de la fin à notre nouvelle héroïne, Angèle.
Mais non, le monde, c'est nous qui le faisons.